Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Alors, nous continuons notre série d'entretiens autour de la semaine du cerveau. Vous avez quand même compris que c'est une semaine un peu particulière à Montpellier puisqu'elle dure un peu plus de 21 jours. Donc, c'est une longue semaine. Alors aujourd'hui, nous allons, écoutez-nous bien si je puis dire, car nous allons parler de surdité, d'audition en tout cas, avec Élodie Richard. Bonjour Élodie Richard.
Bonjour.
Donc, vous allez animer une table ronde, vous allez modérer, comme on dit, hein, une table ronde qui se tient dans le cadre du Bar des Sciences. Ce sera le jeudi 19 mars.
C'est ça.
Autour des rapports entre l'oreille et le cerveau. Parce que l'oreille, ça ne marche pas tout seul, ça marche avec un cerveau. Et le cerveau, ça ne marche pas tout seul, ça marche avec des oreilles aussi.
Tout à fait.
Voilà, donc quand l'oreille fatigue, le cerveau s'embrouille. On redira le lieu tout à l'heure. Alors, quel est vous travaillez dans un des laboratoires de l'INSERM. Alors, MMDM, c'est quoi ?
C'est mécanisme moléculaire dans les démences neurodégénératives. C'est une unité INSERM qui est hébergée par l'Université de Montpellier.
D'accord. Ça n'a pas spécialement de rapport avec la question de l'audition ?
Eh bien, si, il y a quand même un petit lien, effectivement. Plus spécifiquement parce que je travaille sur une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Wolfram, qui est une maladie neurodégénérative avec des atteintes visuelles et sensorielles. Et donc, c'est là mon angle d'approche, en fait, par rapport à la perte auditive et la neurodégénérescence. Mais il y a un lien entre l'oreille et le cerveau qui est bien plus important que dans ce cadre simple de cette maladie génétique.
D'accord. Alors, on peut parler de surdité. Il y a beaucoup de questions là. On met un seul mot en général, mais bon, déjà surdité, déficience auditive, c'est pas pour beaucoup, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. On a des questions sociales, culturelles, médicales, pédagogiques. Bon voilà. Alors, quel est vous avez commencé un peu à nous le dire. Dans cette table ronde, il y a différents spécialistes. Vous allez être modératrice. Comment vous avez envisagé d'aborder quelle surdité et de quelle façon en parler ?
Donc c'est vrai qu'on a tendance à dire la surdité, mais j'aurais tendance à dire moi qu'il y a des surdités. Il existe différents types de surdités. Il existe les surdités en fait dès la naissance, les surdités qui sont acquises avant l'âge de la parole, donc on dit prélingual, avant 3 ans, puis les surdités postlinguales, donc après 3 ans. Donc ça c'est l'âge de l'apparition des surdités. Il y a des surdités stables, il y a des surdités progressives, et ensuite les causes de surdité sont souvent différentes. En fait, il y a une atteinte qui est génétique dans à peu près la moitié des surdités, et puis il y a des surdités qui sont dites acquises, et notamment parmi ces surdités acquises, il y a la presbyacousie, qui est en fait le vieillissement naturel de l'oreille en parallèle avec le vieillissement de la personne. Donc c'est cet aspect-là qui, moi, initialement, m'a donné envie de faire cette table ronde, suite notamment à des études qui sont parues ces 15 dernières années sur des études épidémiologiques qui font un lien, en fait, entre la presbyacousie, donc l'apparition de la surdité chez les personnes âgées et les risques de neurodégénérescence, de développer en fait ce qu'on appelle des démences, donc des déficiences, des troubles cognitifs en fait. Donc l'idée c'était de réunir une table ronde où on aurait à la fois des experts en surdité et puis de l'autre côté des médecins qui seraient eux et des personnels scientifiques qui seraient eux plus à même d'expliquer tout ce qui était maladie neurodégénérative, les démences et troubles cognitifs et de faire un lien entre les deux.
Oui, alors c'est plus sur, donc c'est sur des surdités acquises que vous travaillez ou évolutives, hein, pas tellement sur les surdités de naissance.
Alors moi, mon travail initial, c'est sur des surdités de naissance. N'empêche que le background scientifique fait que j'ai aussi connaissance. D'accord. Des surdités acquises. Dans ce contexte-là, ce que moi je proposais initialement, c'était plutôt de travailler effectivement sur des surdités acquises. Après, le public fera évoluer l'entretien avec les questions qu'ils auront envie de poser.
Alors, quand on parle vous parlez de difficultés cognitives, qui serait le résultat d'une surdité. Alors, on l'imagine bien quand il s'agit d'une sûreté de naissance, que bah, y a une difficulté d'accès à la langue, du coup d'accès à la culture. J'ai un peu travaillé sur ça, voilà, des jeunes enfants qu'on oralise, par exemple, bah, passent tellement de temps à être oralisés qu'ils ont beaucoup moins de cours de culture générale ou autre quand ils sont scolarisés. Mais concernant un adulte, voilà, on évoquait postlingual, oui. Un adulte qui, suite à un accident ou simplement par le vieillissement, mm-hmm. perd de l'audition, on n'imagine pas qu'il y a des troubles cognitifs qui seraient dans un rapport de cause à effet à cette perte d'audition.
Alors en fait, le processus d'audition, c'est un processus cognitif en soi, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre. Il faut aussi comprendre les mots, les individualiser, remettre dans un contexte. Ça fait appel à notre mémoire également. Donc en fait, l'audition en soi est un processus cognitif. Et quand on devient sourd, on doit se réhabituer un petit peu à tous ces processus cognitifs qui sont un peu modifiés. Le fait que la surdité puisse entraîner un déclin cognitif, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises chez les scientifiques, et c'est encore aujourd'hui exploré. C'est notamment le problème de la surcharge cognitive, c'est-à-dire que la personne entend moins bien, donc elle va focaliser son attention pour comprendre et pour que le cerveau complète un peu ce que la personne n'entend pas. Et finalement, le fait de se concentrer tant pour comprendre et entendre, ça va se faire au détriment de d'autres fonctions cognitives, comme la mémorisation, par exemple. Un des autres aspects qui est important, c'est lorsqu'on devient sourd. Déjà, certaines personnes tentent à le cacher et ne veulent pas que leur entourage soit au courant. Et ça peut amener finalement à un isolement social. L'isolement social, donc moins d'interaction avec ses semblables, puisque ça demande une extrême concentration et que ça devient fatigant. Et on sait que cet isolement social peut mener à la dépression étant elle-même un facteur de risque pour développer des troubles cognitifs, en fait. Donc il y a cet aspect-là aussi qui n'est pas négligeable.
Oui, en vous écoutant, je me dis, et on pourrait rajouter que des personnes, on va dire malentendantes ou avec un déficit d'audition important, vont le rappeler à leur entourage de temps en temps, mais comme ce n'est pas quelque chose qui se voit, alors, même avec des appareillages, les appareillages étant de plus en plus discrets aujourd'hui, leurs interlocuteurs oublient qu'ils ont cette difficulté.
Et que, tout à fait.
Bah, par exemple, une situation où il y a trois personnes qui parlent, une personne qui entend bien arrive à s'en sortir, une personne qui a des déficiences auditives, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
Surtout quand... Déjà, quand il y a trois intervenants, effectivement, c'est compliqué parce que beaucoup de gens, finalement, lisent aussi sur les lèvres pour s'aider. Donc, mm-hmm. quand il y a plusieurs interlocuteurs, ça devient compliqué. Quand on est dans un environnement extrêmement bruyant, ça devient complexe également. Et il y a une telle fatigue qu'au bout d'un moment, il y a un retrait social. Les gens n'ont plus envie de faire cet effort-là parce que ça leur est extrêmement coûteux. Et donc, en fait, cet isolement va précipiter potentiellement de la dépression et une perte cognitive, puisque moins le cerveau est interpellé, moins il y a d'interaction, moins le cerveau rentre en fonction, en fait. Et donc, on peut avoir des déficiences liées à ça.
Voilà. Alors là, on est sur la partie pas très gaie de la question. On fait une petite pause et puis on pourra peut-être aborder les dimensions de prévention pour avoir une autre plus positive.